pour vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver en ce samedi midi et par ce temps estival et ce grand soleil pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cotier. Alors, comme disait le grand Louis Jouvet, rater sa vocation, c'est se chercher où l'on n'est pas. Et il arrive souvent que certaines personnes se cherchent où elles ne sont pas. Oui, qui dans sa vie s'est demandé ou pas demandé, mes chers amis auditeurs, est-ce que c'est vraiment ma place, le métier que je fais? Est-ce que je serais fait peut-être pour autre chose? C'est dont nous allons parler. Et nous avons comme invité centrale une femme qui est très illustrante de cela par rapport à son histoire de vie et son parcours. Elle s'appelle Francine Kaiser. Bonjour Francine.
Bonjour Christophe.
Et puis pour vous accompagner et nous éclairer et poser de bonnes questions à Francine, nous avons justement une coach spécialiste en transition professionnelle, une coach en accompagnement qui nous parle souvent de mission de vie, Edwige Cazapat. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Et puis, avec moi, à mes côtés, comme d'habitude, notre chroniqueuse historique, l'hypnothérapeute Irène Cazanave. Bonjour Irène.
Bonjour.
Alors, exceptionnellement, ce n'est pas une émission interactive. Vous allez vraiment être à l'écoute de tout ce qu'on va voir avec Francine. Vous ne pouvez pas nous appeler, ne vous inquiétez pas, ça va être passionnant. Francine, rebonjour. On a envie d'emblée de savoir un petit peu que vous présentiez aux auditeurs de Vivons Cotier. Donc, quel a été votre premier métier, Francine?
Alors, mon premier métier, c'était la profession d'avocat, d'avocate d'affaires, comme je l'ai mentionné. Dans les années 80, j'ai fait mes études de droit à Paris,
oui,
à l'université de Panthéon-Sorbonne. Je suis retournée à Luxembourg, où j'ai commencé ma carrière d'avocat dans un grand cabinet d'affaires, et j'y suis restée pendant plus de 30 ans.
Donc, 30 ans, votre premier métier, avocate d'affaires.
Tout à fait, ouais. J'ai fait une très belle carrière. Je veux dire, à l'époque, c'était pas tellement évident pour des femmes d'accéder au partenariat. J'étais associée après un moment. J'ai vraiment fait une carrière de rêve et c'est comme ça que les gens l'ont vu aussi. Mais quand j'étais au top, disons quand j'avais tout atteint, ce que je pouvais atteindre, j'ai décidé de partir et de m'orienter différemment. Je dis au moment où j'étais au top, mais je dois quand même dire que c'est une décision qui dans ma tête s'est faite relativement tôt, au début de ma carrière. Je voyais que la carrière ne laissait pas beaucoup de temps pour d'autres choses. J'avais énormément d'autres intérêts et je me suis toujours promis un jour de me donner l'occasion de
faire autre
chose.
C'est intéressant, Edwige Cazabat, vous voyez, parce qu'on sent peut-être que déjà ça fourmillait dans la tête de Francine. C'est avant le passage à l'action. Qu'en pensez-vous, Edwige?
Oui, c'est ça. Bah, je suis pas tellement surprise parce que finalement, toutes les personnes que je rencontre, toutes ces questions étaient souvent en fait en latence depuis plusieurs années, mais c'était peut-être pas forcément quand elles ont émergé le moment forcément de les affronter ou de les regarder en face. Donc du coup, ça m'étonne pas forcément qu'il y ait eu besoin de faire une certaine expérience dans votre vie pour après revenir à ces questions-là.
Et quelle expérience, 30 ans quand même, Francine. 30 ans, c'est ce que j'ai entendu,
oui,
n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent « Ah, donc tu n'as pas été épanouie dans ton métier,
oui, alors...
tu vas mieux maintenant. » Et ce n'est pas le cas. J'étais épanouie. Je pense que j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Mais je trouve simplement qu'une vie est trop courte pour ne faire qu'une seule chose.
Qu'en pensez-vous, Irène Cazenave?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la question, d'une part, d'être assignée à un seul métier, cette limitation-là qui est forcément artificielle, où à un moment, on a plusieurs envies, on est des êtres humains, donc multiples. Il y a cette question-là. Et puis, parfois, il y a d'autres enjeux, c'est-à-dire qu'on se laisse embarquer, ce qui n'est pas tout à fait votre cas, mais on se laisse embarquer dans une voie qui ne nous convient pas, mais ça convient à nos parents, ça convient au système économique de ce moment-là, c'est un métier qui est porteur, ou peu importe, et on se retrouve embarqué dans quelque chose qui nous déplaît pas forcément, mais qui nous correspond pas. Et puis, en tant qu'être humain, on peut bien sûr évoluer. Enfin, en 30 ans, on n'est pas la même personne que...
Bien sûr, on n'est pas le même à 40 qu'à 20, à 30, on n'est déjà pas le même que depuis l'émission, le début de l'émission. Et voyez-vous, Francine, il y a un livre très beau d'une dame qui s'appelle Bronnie Ware, dont le titre s'appelle, chers amis auditeurs, Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Et ce livre que tous les gens du développement personnel, de la psycho, ont lu ces dernières années, puisque elle expliquait, alors pour vous, chers amis auditeurs, cette femme était une infirmière en soins palliatifs qui écoutait les gens en fin de vie, puisqu'elle était en soins palliatifs. Elle s'est rendue compte qu'à 72%, les gens ont les mêmes 5 regrets dans les derniers jours de leur vie. Et un de ces 5 regrets, Irène y faisait allusion, c'était avoir pris des décisions dans leur vie, qu'elles soient d'ailleurs amoureuses, professionnelles, financières, à tous les niveaux, qui ont été influencées énormément par des personnes extérieures elles-mêmes. Vous voyez, Francine, ça vous parle, ça ?
Oui, parce que ça, c'est évidemment extrêmement regrettable quand, 2 jours avant de mourir, on se rend compte de cela. Et j'ai... Moi, j'ai pas fait l'expérience parce qu'heureusement, je ne suis pas ou je n'ai pas été devant la fin de ma vie. Mais c'est quand même, je dirais, en préparation. Je me disais non, je ne voudrais pas mourir. Et la veille de mon décès, me dire, mais je n'ai pas tenté tout ce que j'avais envie de faire. Et je pense à un autre livre, un roman qui est magnifique, effectivement, de Pascal Mercier, où il décrit justement l'agonie de cette personne. 2 jours avant qu'il meure, il avait ce piano Steinway dans sa maison et il réalisait qu'il aurait pu apprendre à jouer ce piano et qu'il ne l'a jamais fait.
Il a dit,
je vais mourir et ma vie sera incomplète parce que je n'ai pas fait les choses que j'aurais pu faire. Donc c'est exactement la même chose.
C'est
et moi,
passionnant.
Je ne veux pas que ça m'arrive.
Restez avec nous, nous allons égrener toute cette histoire. Comment se réaliser dans sa vie, comment s'accomplir dans sa vie, comment réaliser sa mission de vie. Nous avons des spécialistes de ça. On passe une page musicale et on reste tous ensemble.
Inspiré jour après jour, de son souffle et de ses cris.
Eh oui, quelle magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman. Il changeait la vie. Là, on est en train de savoir comment des gens qui changent la vie se changent leur vie. Vous êtes toujours bien sur Pour Vivre Heureux, Vivant Coaché avec Christophe Médici, ma chroniqueuse Irène Cazenave et Edwige Cazabat, qui vient pour la première fois aussi, une coach, spécialiste, une première fois, mais peut-être pas la dernière. Et nous avons comme invitée centrale Francine Kaiser. Francine qui est luxembourgeoise, qui vit et qui travaille au Luxembourg, n'est-ce pas Francine, c'est ça?
Tout à fait.
Alors ce qui est intéressant de savoir maintenant Francine, c'est après ces 30 ans donc d'avocate d'affaires, il y a eu une envie de faire un autre métier. Et dites à nos auditeurs, éclairez-les, quel est cet autre métier et vous l'avez commencé quand?
Alors, oui, il y avait l'envie de commencer autre chose, mais je dois dire, au moment où j'ai quitté ma profession d'avocat, je n'étais pas fixée sur le métier.
D'accord.
Ça vous étonne peut-être, mais c'était très important pour moi d'avoir cette liberté, cette flexibilité, de voir les occasions qui se présentaient pour suivre un peu mon intuition et pour mieux savoir comment j'avais envie de poursuivre. Et en fait, ça s'est fait, j'avais beaucoup de choses que j'aurais pu faire, j'avais beaucoup de choses en tête, et ça s'est fait un peu par coïncidence, parce que j'avais envie de retaper mes vieux vêtements que j'avais pendant 30 ans de métier d'avocat, et que je voulais moderniser, faire du upcycling, et donc j'en parlais, mon mari un jour il me disait « Allez, on va t'acheter une machine à coudre pour que tu réalises ça ». Et j'avais cette machine à coudre, je ne savais absolument pas comment l'utiliser, je savais à peine comment l'allumer. J'ai commencé à prendre des cours privés de couture pour comprendre comment faire, et ça m'a tellement bien plu que j'ai décidé de m'inscrire à une formation à Paris, une formation, un CAP en couture. Mais c'était toujours au niveau loisir.
Au début, c'était du loisir.
C'était du loisir.
Edwige, qu'est-ce que vous en pensez là de ces débuts, les tout débuts de Francine là? Elle commence. Ça vous parle comment en tant que coach en transition?
J'ai trouvé ça très intéressant, notamment le rapport à l'intuition. Parce que souvent, les gens ont du mal à se connecter à leur intuition, à écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant de parcours, c'est que c'est venu assez vite. Alors que bon, je suis ici issue aussi du monde du droit, parce que j'étais en droit des assurances, donc je vois assez bien ce monde-là, et c'est pas un monde du tout où on nous apprend, on nous accompagne à nous y connecter. Donc déjà ça c'est vraiment intéressant dans votre parcours, c'est qu'il y a eu cette connexion très rapide et très instinctive, on le sent, qui s'est faite. Et effectivement, en tout cas dans mon travail, la manière dont j'accompagne mes clients, c'est d'aller vraiment se reconnecter à ça, à l'écoute intérieure en fait, parce que finalement on a toutes nos réponses à nos questions, mais le plus dur c'est de les voir en fait.
Ça vous parle comment Francine ça?
Tout à fait, je partage cela parce que, et c'est pas évident, parce que moi même en sachant que je voulais faire autre chose, même en étant déterminée que j'étais prête à quitter mon métier pour autre chose, c'était quand même difficile de choisir et de savoir exactement vers où aller. Donc ce n'est vraiment pas facile de prendre ces décisions.
Non, pas du tout.
Irène, c'est pas facile du tout, d'autant plus qu'il y a, moi j'irais jusque là, il y a un certain courage à changer alors qu'on est installé, qu'on cartonne. Elle nous dit, Francine, ça marchait pour elle. Qu'en pensez-vous, Irène?
Alors, il y a du courage. Hein, c'est extrêmement courageux, ouais. Et c'est extrêmement courageux de s'offrir un espace de liberté. C'est une denrée rare, la liberté, en fait, où on s'autorise justement à avoir cet espace de dire « et si tout était possible ?» Et c'est très courageux parce que effectivement, ça peut être très angoissant de se dire « tout est possible ». Donc ça demande beaucoup de courage de s'offrir cet espace, ce luxe de s'offrir cet espace de liberté.
Ça vous parle comment, Francine et Kaiser?
Oui, ça peut donner de l'anxiété parce qu'effectivement, on a beaucoup à perdre, on sait ce qu'on a, on abandonne tout, il n'y a pas de retour. Donc c'est vrai que ça requiert quand même assez de courage, d'autant plus je dois dire que dans mon entourage, les gens ne m'ont pas compris, ne m'ont pas supporté.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été porteurs de votre projet
partout,
de mission de vie.
Mais que ce soit ma famille, mes amis, mon entourage au cabinet, personne ne me croyait d'ailleurs quand je disais maintenant je vais arrêter.
Qu'une avocate d'affaires au Luxembourg, ça ne marche pas quand même à 1200 euros par mois. Hein. Donc quand on voit quelqu'un qui... Bon, après, il y a le mari. Donc le mari, c'est quand même...
J'avais pas le temps d'être mariée pendant...
Excusez-moi, Francine, je me serais pas permis.
Maintenant, je suis mariée.
Me serais pas permis, Francine. Vous nous avez dit, parce que je suis un petit peu hypermnésique quand même, juste il y a une poignée de minutes, mon mari m'a dit, je t'achète une... C'est ce qui me permettait, moi, en termes d'histoire de vie, de vous dire, à ce moment-là, que votre mari était là. Après, vous n'étiez pas même, mais vous étiez déjà avec lui.
Après que j'avais pris la décision de quitter mon métier d'avocat.
Ah, il n'était pas là avant.
Non.
Il n'était pas là avant, d'accord.
Et je pense que ce n'est pas une coïncidence, parce que ça aussi, je dois dire, dans mon métier d'avocat, je disais, ça ne me laissait vraiment pas beaucoup de temps pour d'autres choses, d'autres intérêts, peut-être aussi pour une vie privée. Et c'est clair qu'une fois qu'on se libère, qu'on est réceptif à tout, aussi à l'amour.
D'accord, oui, bien sûr. Donc, vous voulez dire que l'amour est lui aussi venu en sus après votre vie très, très privée. Mais d'ailleurs, vous savez, c'est intéressant, chers amis auditeurs, parce qu'il y a une culture que vous connaissez peut-être moins bien que la culture française, et il faut voir que pendant très longtemps, moi qui suis très germanophone, puisque c'était ma première langue à l'école, mon père a grandi au Luxembourg aussi pendant un temps de son enfance, dans la relation de la femme avec l'allemand, homme, pendant très longtemps, un tout peu moins pour les nouvelles générations, mais pendant très longtemps, il était bien que la femme reste à la maison et l'homme travaillait, ramenait à manger, et la femme s'occupait de ça. C'est plus tout à fait le cas pour les nouvelles générations, hein. Mais ça a été le cas longtemps dans l'esprit allemand. Il y avait ce côté, d'ailleurs, les femmes qui allaient travailler, on les appelait les Rattenfrauen, hein, les femmes corbeaux. C'est-à-dire qu'on se disait, mais alors pourquoi elles vont travailler? Non, pas une femme, ça reste à la maison. Bon, Francine a fait autre chose. Edwige, vous avez vu, elle nous fait un lien entre trouver petit à petit. Alors, vous, on aimerait vous entendre là-dessus. Juste après une page musicale, on va parler de la mission de vie et est-ce que Francine Kaiser a enfin trouvé sa mission de vie, et on parlera de ce concept. Restez avec nous, c'est passionnant.
Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, bras qui se lèvent pour un Dieu qu'il ne voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je que l'illusion d'attendre un signe, et femmes qui pleurent leurs enfants mais restent dignes. Toi tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi, et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi. Vivre pour le meilleur.
Eh oui, le grand Johnny qui chante une chanson dont la musique était de son fils, notre ami David Hallyday, Vivre pour le meilleur. Eh bien, chers amis auditeurs, on essaie de comprendre ce que c'est vivre pour le meilleur. Vivre le meilleur pour soi, déjà. Justement, je voulais poser cette question à notre coach en évolution professionnelle. Edwige, je crois qu'il y a un concept qui vous plaît beaucoup, c'est le concept d'idée de trouver sa mission de vie. Alors, vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que vous mettez dessous, Edwige Casabat.
Alors déjà, pour moi, la mission de vie, c'est tout simplement la raison pour laquelle on est sur Terre, ce à quoi on est appelé à faire, ce qu'on a envie d'apporter et aussi qui on a envie d'être. C'est vraiment passer par le faire pour aussi être. Donc pour moi, c'est pas une phrase compliquée, parce que finalement, on parle beaucoup de mission de vie, on a l'impression que c'est des concepts très... je préfère parler presque d'intention de vie. C'est vraiment plutôt pourquoi je me réveille le matin, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce qui fait que je me sens pleinement alignée et que je sens que je contribue à quelque chose, peu importe ce que c'est, pour qui et pourquoi. Mais vraiment, le fait de faire le lien avec ce qui fait sens pour soi, pas forcément pour les autres, pour faire le lien avec ce que disait Irène, mais vraiment pour soi.
Et ce qui était intéressant dans cette histoire-là, chers amis auditeurs, c'est qu'il y a eu une étude assez récente du Bureau international du travail qui dit qu'en France, je ne parle pas du Luxembourg francilien, mais qui dit qu'en France, près de 70% des Français désiraient faire un autre métier que celui qu'ils exercent en ce moment. Donc, l'idée que l'intention de vie eût été, il y a une phrase très belle de Goethe qui dit « Prends soin de tes rêves de jeunesse, ils sont la clé de ta vie d'adulte », je veux dire, énormément de gens, par rapport à ce que faisait le rêve de petit enfant qu'ils avaient, comme dirait la chanson de Souchon, tu la voyais pas comme ça, ta vie, tu la voyais pas comme ça, frérot, c'est pas toi qui y es, c'est pas toi qui es beau. Francine Kaiser, est-ce qu'à un moment donné, là, alors on a bien entendu, vous êtes un cas très particulier, Francine, parce qu'on peut pas dire que vous étiez complètement malheureuse en tant qu'avocate d'affaires. Hein, vous nous l'avez dit.
Certainement pas, oui.
Voilà. Mais maintenant, vous avez changé. Quoi, en crise de milieu de vie, à la 40-50aine, de fin de quarantaine.
À la moitié de ma vie, espérant que ma vie va être assez longue, c'est la moitié.
Et alors, je pourrais vous demander s'il y a eu, et ça c'est la question suivante que j'avais préparée pour vous, est-ce qu'il y a eu quand même des rencontres déterminantes à cet effet? Je crois beaucoup aux rencontres à un moment donné dans une vie.
Il y a, je ne suis pas sûre que ce soit des rencontres, mais il y a ce que j'appellerais des coïncidences, alors que peut-être il n'existe pas de coïncidences. Il y a quand même un enchaînement d'événements qui ont fait que je fais ce que je fais maintenant.
Vous pouvez aller en
dire
d'autres.
Ce n'était pas planifié. Donc, la seule chose que je savais, c'est que je voulais faire des études. Je voulais apprendre quelque chose de nouveau. Je trouve ça très important de continuer à avoir envie d'apprendre. Et donc, je me suis inscrite dans ces cours de mode à Paris. C'était le moment de la pandémie où il y avait les confinements. Moi, ça m'a aidée parce que j'avais tout le temps pour m'épanouir devant ma machine à coudre. Et donc, c'était un hasard que c'était à ce moment-là que j'ai pu prendre le temps. Parce que si je n'avais pas eu ce temps-là, peut-être je n'aurais pas eu l'endurance de continuer. Et puis, à cette école, il y a annuellement un défilé de mode pour les étudiants. On peut soumettre son dossier parce qu'il y a beaucoup de candidatures. J'ai été sélectionnée pour participer, ce qui m'a vraiment étonnée et m'a rendue très heureuse. J'ai participé et c'est un concours. J'ai gagné ce concours. Donc, c'est un nombre d'enchaînements qui n'était pas prévisible. Et jusque-là, je n'avais absolument pas envisagé d'en faire une profession, d'en faire un métier. Mais quand j'ai gagné le concours, il y avait évidemment beaucoup de gens qui me poussaient un peu, qui disaient « Mais tu ne vas pas maintenant arrêter, tu dois commercialiser ta collection. » J'avais mon professeur qui m'épaulait beaucoup aussi. Je dois dire, au début, moi, je ne voulais pas franchir ce pas parce que, quand même, c'est autre chose. Quand on décide d'entrer dans le monde commercial de la mode, c'était nouveau pour moi. Je ne le connaissais pas du tout. C'est un monde très bien peuplé, déjà. Ce n'est pas évident de trouver sa place. Donc, au début, je n'étais absolument pas chaude à l'idée. Mais tout d'un coup, et je ne sais pas quel était le déclic, mais je me disais, si je ne le fais pas maintenant, je ne vais jamais le faire.
Ah, alors là, c'est intéressant, Irène Cazeneuve, n'est-ce pas? Là, chers amis auditeurs, elle est en train de nous parler d'un moment qu'on appelle en grec le Kairos. Le Kairos, Kairos était un dieu qui était très bizarre. Alors, il disait, les Grecs, dans la mythologie et dans les vrais Grecs de la Grèce antique, que Kairos, soit tu pouvais le voir, et donc tu l'attrapais, soit tu ne pouvais ne pas le voir, il passait devant toi, soit simplement tu le sentais, simplement. Mais là, ce qui est intéressant dans ce qu'elle nous dit, hein, c'est qu'elle sent que c'est le moment, le bon moment, Irène.
C'est très concret et c'est et ce qui est intéressant, c'est un moment quand si on se demande, pour les gens qui se demandent, est-ce que j'ai envie de faire ça, est-ce que j'ai pas envie de faire ça, alors on peut imaginer le faire et puis on peut imaginer aussi ce que c'est si on passe à côté et si on sent une espèce de vide ou quelque chose, mais c'est vraiment dans le ressenti là encore que c'est pas du tout ok de pas essayer. Ça donne aussi là encore un signe assez fort.
Oui, Edwige, cette idée du bon moment par rapport à l'intention de vie, qu'est-ce que vous en pensez, Edwige Casabat?
Oui, c'est effectivement très important puisque ça sert à rien de faire les choses trop vite. Quelque part, parfois, on a besoin de faire certaines expériences de vie, un peu comme ça a été dans votre cas, pour pouvoir justement aussi après accomplir des choses. Donc pour moi, finalement, on est dans la mission de vie, on y est tout le temps. Donc quand on est là, on parle beaucoup de quête, de mission de vie, etc. Mais en fait, on y est tous déjà. Pour moi, je parle beaucoup de fil rouge. C'est-à-dire que
ou de fil d'Ariane.
Voilà, ou de fil d'Ariane, tout à fait. Où en fait, on est déjà dans sa mission de vie, donc ce n'est pas une quête, mais c'est simplement remettre de la conscience ou remonter les choses à la conscience. Et pour le coup, bah, l'hypnose, effectivement, peut beaucoup aider. Remettre à la conscience, en fait, ce pourquoi on est fait, ce qu'on apporte. Donc c'est vraiment voilà, d'aller regarder. Peu importe votre situation, il n'y a pas de bon, mauvais moment, etc. C'est simplement, dans votre situation, dans votre vie de tous les jours, quels sont même ne serait-ce que les tout petits moments où vous vous sentez pleinement aligné, avec de la joie, vous sentez vous contribuez à quelque chose, même si c'est tout petit. Et ça, déjà, pour moi, ça vous indique, on va dire, quel est votre fil rouge. Et après, libre à vous, au moment où c'est le bon pour vous dans votre vie, de pouvoir, j'ai envie de dire, aller encore plus.
Que la confirmation,
ça vous parle comment, Francine Kaiser?
La confirmation de cela, on l'a seulement par après. C'est ça ce qui rend, je pense, la décision
exactement
tellement difficile. On ne peut pas savoir d'avance si c'est la bonne route. On doit être préparé aussi à ce qu'il y ait des échecs, hein. C'est possible. Il ne faut pas avoir peur des échecs, parce que si un échec va vous faire évoluer, va vous faire mieux comprendre ce que vous attendez de la vie ou ce que vous n'attendiez pas. Donc oui, mais c'est cette peur de l'échec, je pense. Et bon, dans mon cas, je dois dire, je suis tellement heureuse dans ma situation. Je suis tellement heureuse d'avoir osé. Mais je pouvais pas le savoir à ce moment-là.
Ça, c'est intéressant. C'est le terme que vous employez, voyez, Francine, parce que c'est le terme que j'allais employer, que je dis dans mon TEDx qui est sorti il y a une poignée de semaines, libérer votre cerveau de son saboteur. C'est l'idée d'oser. C'est-à-dire que vous, à un moment donné, vous auriez évidemment pu très bien rester avocate d'affaires, parce qu'avocate d'affaires au Luxembourg, voilà, hein, j'ai déjà développé, mais ça va, hein, c'est bien, hein, c'est pas assistante de direction. Dans une TPE d'Île-de-France. Eh bien non, vous osez lâcher tout ça. Je veux dire, c'est fort. Et moi, j'appelle ça dans mon TEDx devenir une magicienne ou un magicien d'ose. C'est joli, hein, ça fait penser évidemment au conte. Mais Irène, c'est vrai, l'art d'oser.
Et complètement. Et il y a cette question aussi d'appréhender complètement différemment l'échec, de vivre l'échec plus comme une expérience. Et ce qui est important là aussi dans l'expérience de Francine, c'est que vous avez réussi ce que vous avez osé. Et quand bien même, nous, on arrive là à ce moment où vous avez réussi, mais peut-être qu'il y a eu des étapes où tout n'a pas toujours été réussi.
Justement, on va y venir. On passe une page musicale. Elle va nous dire, bonne question, Irène Casnard, tous les écueils, toutes les embûches, tous les moments. Croyez pas que ce soit si simple, chers amis auditeurs. Donc, restez avec nous, c'est passionnant. On va comprendre un petit peu tout le parcours de Francine Kaiser. À tout de suite, restez avec nous sur Dynamique Radio.
Donnez-lui la passion. Donnez-lui ce qui fait que quand tout est bidon, quelque chose reste vrai. Donnez-lui cette flamme qui ne s'éteint jamais, qui survit même aux drames les plus longs, les plus laids. Donnez-lui la passion avant de m'inviter dans votre grande maison, dans votre éternité. Ce sera sa bouée, son instinct de survie quand j'irai vous retrouver dans votre paradis. Donnez-lui la passion. Creusez-lui l'appétit pour qu'elle ait des raisons de mordre dans sa vie. Si vous prenez la mienne, donnez-lui au moins ça pour soulager sa peine, pour remplacer ma voix quand ma jeune malheureuse cherchera le sommeil que chanterait sa berceuse du haut de votre soleil. Donnez-lui la passion pour qu'elle tende l'oreille, qu'elle entende ma chanson et qu'elle sent les merveilles. Donnez-lui accroche. Si le monde est trop con, si la vie est trop moche, donnez-lui la passion qui transporte, qui lui fera comme un pont au-dessus de sa mère morte. Si je m'en vais si tôt, je la verrai pas grandir, donnez-lui ce cadeau qui l'empêchera de mourir. Je voudrais pas qu'elle s'ennuie, je voudrais pas qu'elle m'en veuille, elle a le cœur trop petit pour porter mon gros deuil. Donnez-lui la passion pour qu'elle ait le cœur gros, puis la permission d'éclater en sanglots. Donnez-lui la passion pour qu'elle ait du courage, pour qu'elle ait une mission, ce sera mon héritage. Donnez-lui cette richesse et je promets de ne pas gêner, même s'il faut que je la laisse pour aller vous rejoindre. Ne me faites pas faux bon, c'est tout ce que je vous demande. Donnez-lui la passion pour qu'elle devienne grande. Je ne veux pas m'en aller, je veux vieillir avec elle. Si vous décidez de me piéger dans votre ciel, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse de mes ailes? Si elle peut pas voler, ma petite hirondelle. Si jamais je déménage sans l'avertir avant, que je pars en coup de vent vers votre grand nuage, que je pars pour de bon et que je l'abandonne, donnez-lui la passion et faites qu'elle me pardonne.
Immense Linda Lemay qui nous dit justement qu'être parent, eh bien, c'est transmettre l'idée à son enfant, trouve ta passion, trouve ce dans quoi tu es passionné. C'est passionnant justement et le thème est en phase avec notre invitée centrale qui est Francine Kaiser qui est toujours avec nous. Évidemment, Irène Cazenave, notre hypnothérapeute et Edwige Cazabat là. Alors, nous en étions à cette question passionnante d'Irène. Oui, ça n'a pas été un lit de rose. C'est jamais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments, il y a eu des doutes, il y a eu des écueils, il y a eu des débuts pas simples, Francine Kaiser. C'est pas simple de prendre quelque chose de nouveau.
Tout à fait. Il y a eu des doutes, il y a eu des hauts et des bas, mais il y en a toujours. Hein.
Bien sûr.
On n'est jamais, et surtout pas si rapidement, sur un lit de rose, comme vous
Bien
disiez.
Sûr.
Et il y a des périodes difficiles, et je pense que ça, c'est très important. Il faut évidemment croire en soi, c'est très important parce qu'on ne fait rien si on n'a pas la confiance en soi-même, mais on doit aussi se remettre en cause parce qu'il y a forcément des moments où les choses ne se passent pas comme on l'avait envisagé. Je pense que c'est complètement illusionnaire de penser que tout
illusoire.
Marche toujours. Illusoire, pardon.
Mais vous n'êtes pas de langue française maternelle. Vous parlez, j'aimerais bien parler l'allemand, le luxembourgeois comme vous le parlez.
Je mélange un peu toutes les langues en parlant toutes les heures une autre langue. Je suis désolée. Mais donc non, ça se passe pas toujours comme on le veut et je pense que c'est très important qu'on puisse prendre recul, qu'on se remette en cause et qu'on change aussi de direction si on voit qu'une direction. Il faut s'avouer que parfois les directions, les choix qu'on a faits, ce sont pas les bons.
Edwige, que vous inspire ce que dit Francine par rapport à son...
C'est très intéressant parce que je parle beaucoup de transition professionnelle et non changement professionnel parce que finalement c'est quelque chose qui se fait par étapes. C'est pas je me réveille un jour, paf, j'ai envie de faire ça, on y va et c'est super. C'est vraiment accepter que peut-être qu'il y a des moments de réflexion, d'introspection, des moments justement d'expérimentation où on va aller vraiment explorer certaines choses, etc. Et ensuite, on va dire un passage à l'acte avec des moments aussi où on ajuste aussi son projet. Donc c'est vraiment de pas attendre du jour au lendemain, tout est transformé, tout est merveilleux. C'est simplement d'accepter aussi de faire les choses avec du temps, par étapes. Et toujours en s'écoutant, en osant et en ayant aussi, on parle de courage aussi, hein. Il faut du courage, c'est vrai.
Oui, il faut du courage.
Ouais.
Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que courage et cœur ont la même étymologie. Les lettrés qui nous écoutent se rappelleront que dans le Cid, quand Don Diego, le père, dit à Rodrigue qu'il doit aller venger, lui dit: Rodrigue, as-tu du cœur? Et avoir du cœur à l'ouvrage, c'est avoir du courage. Qu'est-ce que vous en pensez, Irène? Il y a toujours une histoire d'effort et parfois les gens sont un petit peu feignants.
Alors, c'est pas forcément une une question d'effort, c'est une question aussi d'être dans un état d'esprit où, et c'est important dans ce cas-là d'être vraiment dans quelque chose qui, je reprends la chanson de Linda Lemay, d'être dans sa passion, parce qu'il y a des moments où ce sera un petit peu plus laborieux, mais à partir du moment où on est dans sa passion et où l'état d'esprit c'est d'oser, c'est d'essayer, on ne vit pas l'échec pareil, parce que de toute façon, on est dans la réussite d'avoir osé et d'avoir essayé. Donc vraiment être dans cette énergie-là, d'oser et d'essayer.
Francine, Kaiser, ça vous inspire quoi, ce que nous disent nos expertes ?
Mais je suis tout à fait d'accord. Donc il faut déjà beaucoup de patience. Je pense qu'il y a aussi différentes façons de mesurer la réussite. Et il y a des étapes dans la réussite. Et il faut aussi reconnaître les réussites, les premières réussites, les plus petites réussites. Je pense que la
vous parlez
première...
de vos premières petites réussites. Alors déjà, vous avez fini première à ce fameux concours. Et puis une seconde, ça a été quoi ?
Oui, c'était de me lancer, d'arriver à produire ma première collection.
C'était en quelle année, la première collection, alors ?
C'était en 2021.
2021, votre première collection. Pardon, est-ce que votre marque a un nom ? Comment ça s'appelle ?
Elle est en fait parue en 2022. J'ai commencé en 2021. Collection Francinica, c'est le nom de ma marque.
Francinica, alors retenez bien ce nom, Francinica. C'est votre marque.
C'est ça, et elle est disponible sur le site.
On en parlera, oui. Alors vous avez votre site, Francinica.
Francinica.com, c'est très facile.
Ouais.
Alors, oui, et donc ensuite, il y avait le site web, c'était la deuxième réussite. Mais je pense que la toute première réussite pour moi, c'était déjà d'avoir réalisé une collection, et puis de voir que quand ça plaît aux gens qui viennent voir les collections, qui essaient, quand je vois les femmes qui sont radiantes, quand je vois que je peux rendre des gens heureux. D'ailleurs, la mode, ça, et c'est toute une autre discussion, on ne peut pas en parler maintenant.
Si.
Mais c'est...
On peut parler de tout.
Qu'est-ce
ici.
Qu'est-ce qu'on veut atteindre par le vestimentaire, par la mode ?
Oui.
C'est donner confiance à des femmes, c'est de les rendre belles, c'est de les rendre
embellir.
Conscientes
ouais, ouais.
De leur beauté.
Ouais.
Et pour moi, ça, c'est très, très important pour que, justement, il y a tellement de femmes qui viennent et qui... ne sont plus tellement à un certain âge, sont pas intéressés.
Là, le coach que je suis va vous faire un miroir. Non seulement vous devez en parler, mais c'est presque le cœur, parce que quand on fait quelque chose, on a des motivations, n'est-ce pas ? Et les motivations, c'est ce qui nous motive le plus haut. Et ce que vous venez de dire là, vous, c'est peut-être une des choses. D'ailleurs, on vous sent presque ému quand vous en parlez. Et c'est justement une des plus grandes motivations pour vous, Francine, d'avoir créé ça dans la mode. C'est embellir la femme, les rendre belles et les voir heureuses et que c'est peut-être plus confiance en elles. Qu'est-ce que vous en pensez, Edwige ? Au contraire, faut pas parler de ça. C'est ça qui fait le cœur de votre métier,
Francine.
Et c'est
vrai, et je ressens que chaque pièce que je vends, chaque pièce même qui est essayée, pour moi, c'est une réussite.
Alors...
Et puis, évidemment, on peut décliner la réussite à l'infini, on peut commercialiser beaucoup plus, on peut avoir des stratégies commerciales au-delà des frontières et tout, mais ça commence avec la première pièce produite, avec la première pièce essayée, la première femme radiante et donc je pense que c'est très important
Edwige,
de reconnaître
c'est beau
toutes
cette
ces,
idée hein,
ces
de dire elle a raison d'ailleurs vraiment que la motivation c'est avoir envie de donner quelque chose qui va être une valeur ajoutée dans la vie d'une personne. Edwige Casabat.
C'est tout à fait ça, finalement la mission de vie c'est beaucoup lié à d'abord se reconnecter à soi mais aussi se reconnecter aux autres. Donc c'est vraiment comment je peux contribuer dans ce monde d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'ailleurs avec les humains, la nature ou les animaux au sens large. Donc là effectivement c'est très très beau et très harmonieux tout ce qu'on entend, puisque finalement c'est ça, c'est vraiment remettre du beau, utiliser le beau pour remettre du baume au cœur justement et permettre à des personnes, du coup pas par le coaching mais par des vêtements, de se reconnecter à soi, d'oser être soi aussi par l'apparence et par ce qu'elles peuvent oser montrer de qui elles sont.
Irène Cazenave.
Complètement, et ça vient aussi cette mission supérieure ou cette conscience là de cet objectif, de cette motivation, ça vient aussi mettre du baume quand il y a des situations qui sont un petit peu plus difficiles, c'est pas forcément difficile, mais des choses qui traînent, des choses qui sont un petit peu plus compliquées ou contrastées. Et quand on a cette mission là et cette conscience là de ce qu'on veut et de ce qui nous motive réellement, le reste passe beaucoup plus facilement. les difficultés passent beaucoup plus facilement parce que c'est juste des étapes en fait.
On va passer une page musicale et on va parler un petit peu de cette idée que, en fait, la mission de vie, chers amis auditeurs, vous en avez toute une et une, toute une. Voilà. Tina Arena qui nous dit pour aller plus haut. Oui, je pense qu'il faut toujours avoir envie d'aller plus haut, aller plus loin, toujours plus loin, toujours plus haut. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans Pour Vivre Heureux, Vivons Coaché. Nous avons une émission passionnante dont le thème est comment se réaliser dans la vie, comment vivre sa mission de vie. Et nous en étions à cette idée que la mission de vie, n'est-ce pas ? Tout le monde en a une. Francine Kaiser a changé complètement de métier, mais la vraie question, c'est de se dire pourquoi y a-t-il aussi peu de gens qui ont la sensation dans leur vie professionnelle de s'accomplir, de se réaliser. Je reviens pas sur l'étude que j'ai racontée, mais 70% des Français aimeraient changer de métier. Vous avez une piste, Edwige, vous avez une piste. Qu'est-ce que vous en pensez de cette problématique ?
Bah, je dirais que, en tout cas, la chose que je constate le plus en rencontrant beaucoup de personnes, c'est une histoire de formatage un petit peu de social par l'école, l'université, même bah, les médias, les films, tout ce qu'on peut voir et qui nous donne justement une définition de qu'est-ce que c'est réussir, qu'est-ce que c'est être quelqu'un de bien, qu'est-ce que c'est le sens de la vie quasiment. Donc il y a vraiment tout un travail déséducation, enfin en tout cas de vraiment de se libérer en fait de tous ces concepts, toutes ces choses qu'on a pu nous mettre un petit peu dans la tête autour de tout ça. Donc c'est pour ça que pour moi le numéro un, c'est vraiment d'aller déconstruire certaines croyances, certaines façons de penser. J'allais dire quasiment ce que vous avez pu apprendre sur vous et sur la vie pour pouvoir en fait vous forger une opinion qui est vraiment la vôtre.
Qu'en pensez-vous, Irène Cazenave ? Et après, on demandera à Francine Kaiser ce qu'elle en pense de tout ça.
Complètement. Et c'est à un moment, ce formatage, il peut couper il peut nous couper en tant qu'individu de notre intuition, de notre animalité, de ce qui fait sens pour nous, de ce qui nous anime. Ça peut aussi nous couper de nos réels dons, en fait. Quelqu'un qui a une vocation artistique, mais qui se
retrouve
à être...
Mais est-ce que c'est pas aussi dès l'éducation, Irène, scolaire ?
Mais bien sûr que oui.
L'éducation scolaire, elle formate les gens, mais elle n'hésite pas à trouver ce pourquoi ils sont faits.
Alors d'une, elle ne sert absolument pas à ça.
On est bien d'accord.
Elle ne sert absolument pas à ça. Elle est, j'ai envie de dire, faite pour formater.
Ben voilà.
Après, ça dépend aussi du contexte familial, de comment est vécue l'éducation. Est-ce qu'il y a un recul dans la famille ? Est-ce qu'il y a des expériences dans la famille, je sais pas, d'artistes ou de gens qui sont épanouis ? Est-ce que nos parents sont eux-mêmes épanouis dans leur métier ? Il y a
tout ce contexte.
Donc, on se retrouve avec à la fois un formatage familial, un formatage de
sociétal.
Un formatage. Donc, ouais. À un moment, ça fait beaucoup de petites boîtes dans lesquelles on est enfermé et la déconstruction, elle se place à tous ces niveaux-là.
Francine Kaiser, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que nous disent là nos expertes ?
Mais c'est en fait aussi ce que moi j'ai vécu. Quand je vois comment c'était difficile de convaincre mon entourage maintenant de ce que moi je ressentais tellement fort que je voulais absolument le faire, je voulais changer de vie. Je ne peux pas savoir comment ça aurait été et quand j'avais 20 ans, si j'avais dit je ne veux pas faire du droit, je ne veux pas avoir un emploi bien, bien fixe, je vais me lancer en tant qu'indépendante créatrice de mode. Mais je pense que ça aurait été très, très difficile à convaincre.
J'ai une amie qui avait choisi, alors qu'elle avait fait du droit, et son père, finalement, elle a senti qu'elle voulait devenir esthéticienne. Depuis, elle a une grande et lui a dit ah ben maintenant ma fille veut devenir une pute parce qu'elle quittait le droit et elle a été virée de chez ses parents à 23 ans. Vous imaginez, Edwige? Tout ça simplement parce qu'elle quittait le droit, elle voulait devenir esthéticienne. Pour lui, pour le père, dans ses croyances limitantes, faire esthéticienne c'était devenir une pute. Edwige, c'est quand même incroyable, non?
Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Alors évidemment, là, on est sur de l'excès, mais ça ne m'étonne pas tellement, puisque finalement, l'entourage aussi projette beaucoup ses propres peurs sur les personnes qui osent justement.
Parfois, ça fait des dégâts, Edwige. On pense évidemment, moi, en exergue de mon livre Savoir gérer les personnes toxiques, je l'avais dédié à tous les poètes disparus trop tôt, et je pensais à Neil dans le cercle des poètes disparus. Neil qui se voit comédien parce qu'il adore jouer Shakespeare, et son père qui le voit faire les grandes écoles. Là, c'est ce film fabuleux avec Robin Williams, évidemment, hein, qui joue Keating. Paix à ton âme, Robin. Je lui ai dédié mon livre sur les personnes toxiques. D'ailleurs, il était dédié à Robin Williams. Il est sorti l'année du suicide de Robin Williams. Et c'est dingue parce que le gamin est suicide dans la nuit. Donc, ces types d'éducation parentale et de formatage, ça fait des morts. Vous comprenez, Francine? Ça fait des morts de pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vous dit?
Je suis d'accord parce que j'ai moi-même souffert énormément que la décision que moi j'étais tellement convaincue de prendre, je trouvais qu'elle a été rendu très difficile par l'extérieur, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire que tout le monde me supportait. Maintenant que ça s'est
bien
passé,
ça va, hein.
Les gens me supportent, mais je dois vraiment avouer qu'au démarrage on ne me supportait pas.
Oui, mais ça, vous savez, ça c'est très intéressant parce que Martin Seligman, le père fondateur de la psychologie positive, et ma méthode HQR est dans la mouvance de Martin Seligman, un des plus grands psys américains de notre époque. Et Martin Seligman, il donne un test à faire, chers amis détox, qui s'appelle le test de la bonne nouvelle. Quand tu annonces une bonne nouvelle à quelqu'un, or annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, ça veut dire aussi, tu sais, j'ai trouvé un métier, une nouvelle activité, elle me fait, excusez-moi, faire un peu le banlieusard, mais elle me fait kiffer. Regardez la réaction des gens qui se considèrent vos amis. Et regardez ceux qui vont avoir une réponse constructive active à cet endroit. Et qui vont dire « Ah, je suis tellement heureuse pour toi, Francine. Enfin, t'as trouvé quelque chose. » Et qui nourrit ça d'une émotion positive et qui t'envoie des bons messages. Les autres sont-ils des amis? On va passer une chanson qui a à voir avec le thème complet, comme à chaque fois, hein, de cette émission. Mais surtout, écoutez bien les paroles et paix à l'âme de ce monsieur. Mais écoutez bien la différence, c'est là-dessus qu'on vous interrogera, Francine. Une page musicale.
C'est de parler à Dieu comme à ses voisins, dire que ça ira mieux même quand tout va bien. C'est de voir le soleil au milieu des nuages et devant un avion rêver de voyage. Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. C'est d'être un président, ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse, comme on jouait aux billes, et de finir sa course, le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie, de tout devenir. Réussir sa vie, c'est prendre la main d'un enfant, le cœur d'une femme qui te sourit, à l'aventure infiniment. C'est d'être au carnaval, un des rois de la fête, de croire en son étoile, même les jours de défaite. C'est d'aimer le plaisir, le travail et l'orgueil. C'est de toujours se dire qu'on n'est jamais tout seul. Réussir sa vie, c'est vivre au présent, mais d'avoir envie de vivre sans temps. Réussir ta vie, soit poète ou soit paysan, moitié méchant, moitié gentil, à l'aventure évidemment.
Magnifique chanson de feu Bernard Tapie, paix à ton âme Bernard. Et justement, c'est fabuleux parce que voilà, moi j'ai voulu, en invitant Francine Kaiser, finir l'émission pour qu'on discute tous les quatre de ce sujet. Bernard Tapie, au moment où il fait cette chanson, il est le parangon, il est l'idéal type du mec qui réussit dans la vie. Il fait une émission qui s'appelle Ambition sur TF1, il est branché argent, il rachète des entreprises et tout ça. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Et là, je vais demander à mes experts, et surtout à Francine, je sais que ça vous a beaucoup ému, hein, Francine, cette chanson, elle me touche beaucoup aussi. Il y a évidemment une distinction, chers amis auditeurs, entre réussir sa vie et réussir dans la vie. C'est un peu dans la même mouvance que le blues du businessman de Starmania. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Francine, peut-être qu'elle réussissait dans la vie en tant qu'avocate d'affaires, et peut-être que maintenant, Francine, elle réussit sa vie. Francine Kaiser.
Oui, oui. On peut le voir comme ça. Je pense que je réussis ma vie. Je l'espère parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, c'est un tout. C'est pas seulement un métier. C'est un épanouissement tout d'abord. C'est une mission de vie, mais c'est aussi l'aspect personnel. C'est qu'au moment où j'ai fait ce choix, j'ai rencontré mon mari, celui qui est maintenant mon mari. Donc, je pense que c'est effectivement un puzzle qui doit se compléter à un moment. Et je pense à nouveau, ce n'est pas une coïncidence, c'est que si on a trouvé son bonheur, son épanouissement d'un côté, le reste, il suit. Et c'est ça ce qui est important. Il faut que tout se complète. Et la réussite, ce n'est pas, comme on l'avait dit tout à l'heure, ce n'est pas une réussite en termes financiers, en termes de succès professionnel. Non, c'est la réussite de sa vie.
Edwige Cazabat.
Oui, j'irais même plus loin, je dirais que je préfère parler d'abondance que d'argent ou de réussite. C'est-à-dire que, justement, se reconnecter à sa mission de vie, c'est se connecter aussi à l'abondance, qui peut se traduire par de l'argent, par, mais aussi
mais
plein d'autres
plein
choses.
Choses. Bien
voilà,
sûr,
exactement.
Bien sûr,
et en fait,
sûr.
Finalement, en faisant ce travail de se connecter à la mission de vie, en fait, on ouvre, j'allais dire, beaucoup de choses en soi pour permettre cette fluidité. Parce que finalement, la vie nous donne plein d'abondance, mais c'est simplement nous qui acceptons ou non de la recevoir.
Irène Cazenave.
Complètement, il y a cette notion d'ouverture à soi et dans sa mission de vie, c'est aussi s'ouvrir à ce qu'on a vraiment envie de faire soi et s'ouvrir aussi à ce qu'on peut offrir aux autres. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture et effectivement l'ouverture, ça fait que l'énergie circule et l'énergie qu'elle soit. L'énergie, ça peut être de l'amour, ça peut être l'abondance, ça peut être effectivement de l'amour, ça peut être du lien, ça peut être de l'argent, mais l'argent, c'est une part infime.
Relations, l'abondance.
Ça peut être des relations, ouais.
Et puis l'idée aussi, franchement, évidemment, on ne l'a pas cité depuis le début de l'émission, mais on aurait pu commencer par ça, c'est la fameuse phrase de Confucius. Trouvez une activité dans laquelle vous vous épanouissez et que vous adorez, et vous ne travaillerez plus jamais de votre vie. Et c'est pour ça que la formation, elle devrait plutôt être, moi qui suis un homme de l'éducation tout au long de la vie, de la formation continue, œuvrer, chers amis, œuvrer plutôt que de travailler. Œuvrer, un comédien, il œuvre. Hein. Quand on est à sa place dans la vie, on œuvre. Et ça, c'est important, n'est-ce pas, Francine Kaiser? On ne travaille plus. On ne travaille plus.
Non, heureusement, parce que sinon, je travaillerais, je pense, 16 heures par jour. Parce que c'est vrai aussi que je vis mon métier. C'est pas que je travaille, je vis ma passion. Et ça travaille dans ma tête tout le temps, même la nuit, même tous les week-ends. Et je ne le considère pas comme un travail. C'est
non,
simplement
vous œuvrez.
Moi, c'est mon œuvre, effectivement.
Vous œuvrez. Et moi, je dis toujours que quand j'écris un nouveau livre, je suis enceinte, vous voyez. J'ai déjà eu 19 bébés, moi. Plus mon vrai enfant, dont ça fait 20. Et mon 20e, au mois de septembre. Et à partir du moment où moi, alors chers amis auditeurs, ma mission de vie, moi c'est vraiment un cadeau du ciel puisqu'elle m'a été donnée un soir de novembre 2006 au Café du Croissant où Jaurès a été assassiné, et je l'ai entendu dans ma tête. L'entendant dans ma tête, je l'ai protégé à l'INPI dès le lendemain en tant que marque et label, et puis j'aurais pu rien en faire. N'oubliez pas aussi, et ça je voudrais mettre là-dessus l'accent, il y a des gens, le Cairo c'est bien gentil, mais après il faut faire des efforts. Vous voulez que je finisse l'émission encore avec le mot, faut arrêter, comme disait Brel, le génie et le talent c'est 99% de sueur et 1% de génie. Irène, et à un moment donné aussi faut travailler, alors cette fois-ci œuvrer ne veut pas dire ne pas suer.
Alors complètement, il y a vraiment cette question de mettre en œuvre, et je vais réutiliser
non,
le
vrai.
Mot œuvre,
mais
c'est,
vrai.
C'est vraiment cette question de la mise en œuvre et d'accepter les expériences. J'ai pas envie de parler d'échecs, mais c'est de ça dont je parle. C'est d'accepter les expériences, d'œuvrer et d'y retourner le lendemain, parce que dans cette expérience, on apprend et on se rapproche de la lumière.
Edwige Charme.
Alors pour compléter, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est en fait se connecter à son envie, c'est être en vie.
C'est joli, en deux mots. Je suis sûr que Francine, vous vous sentez en vie, très profondément en vie.
En vie, oui, tout à fait. Mais je dois quand même aussi me rallier à vous. Il y a aussi une partie de travail, malgré Confucius. Il y a énormément de travail. Je pense qu'il faut être très persévérant. Mais je pense que c'est vraiment le travail qui honore la passion et l'œuvre concrète.
Mais vous avez tout à fait raison. Et puis, de toute façon, voilà, mon côté normalien peut vous dire, et mon côté Lucchini aussi. Vous savez que j'ai des millions de citations dans la tête, mais il y a une phrase très belle d'Ignace de Loyola là-dessus, vous savez, qui était le père fondateur des Jésuites. Et chers amis auditeurs, écoutez-la bien, parce qu'elle est très importante par rapport à votre chemin, qui est d'ailleurs exemplaire. Franchement, Francine, exemplaire. On est très heureux de vous accueillir dans Vivons Coaché. Ignace de Loyola disait, agis comme si Dieu ne pouvait rien pour toi, et prie comme si Dieu pouvait tout pour toi. Mais n'oubliez pas la première partie. Agis comme si Dieu ne pouvait rien pour toi. Faut les deux. Et parfois, malheureusement, les gens n'ont que l'un ou l'autre, Irène.
Complètement. Et il y a vraiment cette notion de passer à l'action et de travailler, oui, si besoin, de travailler sur soi quand on a trop de blocages pour passer à l'action, parce qu'on est des êtres vivants et on a besoin de toute façon d'être dans cette action. Et si on ne décide pas de cette action en corrélation avec ce qu'on est, on va se laisser agir par d'autres.
Eh bien, toute notre gratitude vraiment pour être passé par Dynamique Radio, Francine Kaiser. Belle émission. J'espère que Samuel Détour, vous allez l'écouter, la réécouter, la réécouter. Merci Edwige, vous reviendrez.
Avec plaisir.
Vous reviendrez. Francine, on va vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous voyez comment dans 10 ans, en 2033?
Ah, je n'ai pas la boule cristal. Je laisse un peu les choses évoluer.
Vous voyez, mais vous voyez avec encore plus de collections chaque
année. J'ai des rêves et normalement c'est déjà bien d'avoir des rêves parce que on ne peut pas y arriver si on ne rêve pas des choses.
Eh bien, on va finir sur un seul mot, Francine Kaiser, le mot de la gratitude qui était le titre de mon dernier livre de l'année dernière. Merci mon amour. Et je vais vous dire une seule chose, ça c'est une très belle phrase de Bouddha. Le plus grand gain c'est de donner et la plus grande perte c'est de recevoir sans gratitude. Alors, toute notre gratitude, Francine Kaiser, à la semaine prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Pour vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.